Bien, bah, bonjour à toutes et à tous. Je voulais d'abord remercier Isabelle Bastien-Duplex et Marion Loire de m'avoir associé à l'organisation de cet événement. Juste dire que mon association, enfin mon engagement a été quand même assez limité puisque je me suis borné à donner le nom d'un certain nombre de collègues dont je connaissais les travaux et dont les travaux me semblaient être tout à fait pertinents pour cet après-midi de réflexion. Donc voilà, toute la qualité de l'organisation leur doit à elle et pas à moi. J'ai pas l'habitude de faire ce qu'on appelle la conférence d'introduction, donc j'ai fait un exercice un petit peu scolaire, c'est que je me suis dit je vais essayer de répondre un petit peu à la question qui est posée, comment être jeune dans un monde de vieux. Donc la question elle est posée de manière un petit peu provocatrice pour susciter le débat et les réactions. Mais en fait, je vais vous proposer trois points dans les 30 minutes qui me sont imparties. Le premier point, c'est de dire la chose suivante. Quand on dit comment être jeune dans un monde de vieux, on pose d'emblée, quelque part, la question de la coexistence des âges, la question de la coexistence des générations, et on induit l'idée un petit peu d'une certaine concurrence entre les classes d'âge. Donc dans un premier temps, en fait, je donnerai quelques éléments sur la manière dont, au cours de l'histoire, au cours des siècles derniers, on a toujours posé la question de la, la concurrence entre les classes d'âge. Donc j'irai assez rapidement sur ce point-là, je vous rassure, je ne suis pas capable de vous faire un cours d'histoire là-dessus. Et puis, dans un deuxième et dans un troisième temps, j'essaierai de donner des éléments sur cette question de la place des jeunes dans la société française, puisqu'on voit bien que quand on pose la question « comment être jeune dans un monde de vieux ?», on sous-entend que quelque part ce n'est pas facile, que quelque part il y a des difficultés, en tout cas que ça ne va pas de soi et que la place que la société française accorde ou pas à sa jeunesse doit être questionnée. Donc je disais, pour commencer dans ce premier point, que le titre de cet après-midi de réflexion pose la question quelque part de la concurrence entre les classes d'âge et de la manière dont des générations peuvent coexister ensemble au sein d'une société. C'est une question en fait qui a émaillé beaucoup de réflexions, beaucoup d'écrits depuis l'Ancien Régime. Alors il faut tout de suite que je donne un élément important, c'est que a fortiori, plus on considère une époque éloignée, mais les écrits ou les réflexions sur les jeunes, en fait, concernent uniquement les jeunes hommes, c'est vrai en tout cas jusqu'à une période assez récente, et très souvent les forces sociales dominantes, très souvent les jeunes favorisés. Par exemple, le premier point de repère qu'on peut donner, c'est ce qui se passe sous l'Ancien Régime. On a un certain nombre de textes et de réflexions qui montrent que les relations entre les classes d'âge dans la France de l'Ancien Régime, elles sont pensées uniquement comme étant un rapport de filiation. C'est quoi un jeune sous l'Ancien Régime ? C'est un fils, d'abord, de noble, bien sûr, les autres ne sont pas très intéressants. C'est un fils de noble qui attend de succéder à son père. Donc en fait, on pense la coexistence des classes d'âge de manière concurrentielle, puisque le fils attend le moment où il va succéder à son père. Donc le rapport social, c'est vraiment un rapport de filiation, et on attribue deux qualités à la jeunesse, deux qualités au sens large. C'est d'abord l'impatience. Pourquoi l'impatience ? Parce qu'on a des jeunes fils de nobles qui attendent de devenir ce qu'ils doivent devenir, mais ils ne peuvent devenir ce qu'ils vont devenir que quand le père va disparaître, quand ils vont pouvoir hériter du père. Donc l'impatience, c'est la première caractéristique. La deuxième caractéristique étant la frivolité, quelque part, puisque comme devenir adulte, comme succéder à son père dépend uniquement de la naissance, eh bien, il n'y a pas de période de formation, il n'y a pas de période où on va enseigner quelque chose à cette génération suivante. Donc sous l'Ancien Régime, on voit quelque part une concurrence entre les âges qui se lie à l'aune d'un rapport de filiation. Avec le siècle des Lumières, je passe très rapidement, avec le siècle des Lumières, on va instaurer un rapport qui est davantage un rapport éducatif. Les valeurs démocratiques progressent, la naissance ne permet plus simplement de justifier l'ensemble des destins et des trajectoires, désormais on commence à parler de mérite, et donc le rapport de filiation va laisser place à un rapport éducatif, la jeunesse n'est plus frivole, n'est plus spécialement impatiente, elle est surtout studieuse, et le but étant d'en faire des citoyens utiles. Et donc, dans les écrits de cette époque, il ne s'agit plus de réfléchir à la manière dont on va modérer les excès réalité d'une jeunesse turbulente, mais de réfléchir à la manière dont on peut former des citoyens éduqués, utiles. Et on voit que tout ça se traduit par un renversement des valeurs que l'on associe à la jeunesse. Je vous cite juste très rapidement ce qu'on écrit au sujet de la jeunesse dans l'encyclopédie. On écrit que ceux qui parlent en faveur de la vieillesse comme étant sages, mûrs et modérés pour faire rougir la jeunesse comme vicieuse, folle et débauchée, ceux-là, donc, ne sont pas des justes appréciateurs de la valeur des choses, car les imperfections de la vieillesse sont assurément en plus grand nombre et plus incurables que celles de la jeunesse. Donc ça, c'est dans l'encyclopédie. Et on voit qu'on a le début d'un renversement des valeurs et des caractères qu'on accorde à la jeunesse. Je passe très rapidement pour finir cette petite introduction. Au XIXe siècle, on va surtout considérer la jeunesse sous l'angle de la génération, et on va questionner les aspirations et les valeurs de la jeunesse, ce qui fait la marque de la jeunesse, ce qui fait sa spécificité. On va, par exemple, dans la littérature, donner à voir une jeunesse romantique dans la première partie du XIXe siècle, une jeunesse tourmentée, qui est écrasée par le conformisme bourgeois des pères, et une génération qui serait en quête d'absolu. Donc on va glisser tout doucement vers la période contemporaine. Cette problématique des valeurs, qu'est-ce qui fait la jeunesse, qu'est-ce qui fait une génération ? On va la retrouver au XXe siècle, on va la retrouver, je passe vraiment très vite, pardonnez-moi, mais on va la retrouver dans les années 1950 et dans les années 1960, où on va commencer à poser la coexistence des âges de la manière suivante. On va considérer que les valeurs des jeunes sont en conflit potentiel avec les valeurs des générations précédentes. Les années 50 et 60, c'est bien évidemment une période où en Europe, on a des mouvements sociaux de jeunesse qui émergent et qui vont aboutir, par exemple, en France avec 1968. Donc, des mouvements de jeunesse qui émaillent ces décennies et qui vont aboutir à ce qu'on va appeler un problème des générations. Il y a un article célèbre dans la sociologie des générations qui s'appelle « Le problème des générations ». On va s'intéresser à la culture jeune. On va, par exemple, s'intéresser avec un sociologue comme Parsons à la culture adolescente, à l'émergence de l'adolescente. Et puis, derrière tout ça, il y a, pour revenir à cette idée de concurrence entre les âges, chez, par exemple, l'anthropologue Margaret Mead, la crainte d'un renversement du sens de la transmission entre parents et enfants. Elle va décrire la manière dont, désormais, l'essentiel de la transmission, ou en tout cas des valeurs et de l'innovation, va passer depuis les enfants vers les parents, et avec l'idée que le courant générationnel serait inversé. Bon, j'arrête là ce bref détour historique qui visait peut-être maladroitement à montrer comment cette question en fait, de la coexistence des âges et des générations est une question qui est relativement ancienne et intemporelle. Alors, comment être jeune dans un monde de vieux ? Dans les deux points qui viennent, je vais questionner deux éléments. D'abord, je disais tout à l'heure, quand on dit comment être jeune dans un monde de vieux, on a l'idée que quelque part, c'est pas très facile et que ça pose un certain nombre de problèmes. La première manière assez classique de poser cette question, c'est de la poser sous l'angle économique, de la poser sous l'angle de la redistribution des ressources. Après tout, on regarde la manière dont les ressources seront distribuées entre les riches et les pauvres, entre les cadres et les ouvriers. On peut regarder comment elles sont redistribuées entre les générations jeunes et les générations plus âgées. Alors, tout ce questionnement a abouti, à partir de la fin des années 80, à l'émergence de la question des inégalités entre les générations et des inégalités sous l'angle économique et de la redistribution des richesses. On entend souvent parler, par exemple, alors, depuis très longtemps, ce qui pose problème et ce qui montre bien que l'expression ne convient pas, mais on parle depuis très longtemps de la génération sacrifiée. Est-ce qu'il y aurait aujourd'hui en France une génération sacrifiée ? Quand on regarde la manière dont émerge cette question des inégalités entre les générations, on voit qu'elle émerge à partir du moment où le chômage des jeunes augmente et augmente très rapidement. Juste pour la petite histoire des statistiques et de l'INSEE qu'on connaît tous, l'INSEE dans les années 70, au début des années 70, on est encore dans la France des 30 glorieuses, il n'y a pas de chômage, c'est le plein emploi, etc., même si on en vit les derniers feux et qu'on ne le sait pas encore. Et l'INSEE se préoccupe de la question en fait, du lien entre la formation et l'emploi. Comment faire pour que la formation ne soit pas totalement déconnectée de l'emploi, et comment faire surtout que la France ne manque pas de main-d'œuvre qualifiée à un moment où le nombre d'emplois de cadres et de professions intermédiaires où l'emploi qualifié augmente très fortement. Et elle réalise ce qu'on appelle des enquêtes formation-emploi, et elle publie régulièrement des bilans formation-emploi. Comment ça marche ? Eh bien, tous les 3 ou 4 ans, on regarde quel est le sort sur le marché du travail des jeunes en fonction des études qu'ils ont faites. Et puis, la première génération qu'on suit, c'est la génération de jeunes qui quittent l'école en 1973. Ben, les jeunes chômeurs, ça n'existe pas. Quand on a quitté l'école en 1973, il y a tellement peu de chômeurs dans leur échantillon qu'ils les agglomèrent avec les inactifs et qu'on ne dit rien sur les chômeurs. 4 ans plus tard, ils refont une même enquête, cette fois-ci auprès des jeunes qui sont sortis de formation initiale depuis, en 1977. Et là, les chiffres sont les suivants. En 1977, 17% des jeunes hommes sont au chômage, ceux qui ont fini leur étude, et 24% des jeunes femmes. Et donc, massivement, en 4 ans, est apparue cette catégorie des jeunes chômeurs, qui constitue une catégorie, évidemment, extrêmement nombreuse. Et donc, c'est par cette dégradation, en fait, de l'emploi, qui frappe notamment les jeunes, que va émerger cette thématique des inégalités entre les générations. À partir du début des années 90, beaucoup de travaux d'économistes, beaucoup de travaux de sociologues, beaucoup de travaux de statisticiens vont s'intéresser à différents éléments. Le salaire, la possibilité d'accès à un emploi stable, la possibilité d'accéder à la propriété de son logement, la probabilité d'accéder à un emploi d'encadrement. Et tous ces travaux vont mettre en évidence le résultat suivant. Les générations qui sont nées au début des années 60, alors c'est un des problèmes, on y reviendra, mais dans les années 90, les jeunes sont nés dans les années 60. Bon. Et les jeunes qui sont nés dans les années 60, à l'âge de 30 ans, par exemple, ces travaux très sérieux, très rigoureux, vont montrer que, à âge égal, ces générations nées dans les années 60 ont des salaires plus faibles que les générations nées au milieu des années 40, deviennent moins fréquemment cadres en début de carrière que les générations nées dans les années 40, ont plus de difficultés à devenir propriétaires de leur logement que les générations nées au milieu des années 40, etc., etc. Et donc on a tout un faisceau de travaux qui vont faire émerger comme étant un problème important la question des inégalités entre les générations, avec une conclusion commune: il existe des inégalités entre les générations, au détriment des générations de jeunes de l'époque, donc des générations nées dans les années 60, comparées aux générations nées au milieu des années 40, celles qu'on appelle un peu rapidement les premiers-nés du baby-boom. Ça, c'est le premier niveau de l'argumentation de cette thématique des inégalités entre les générations. Il existe des inégalités qu'on peut documenter dans un certain nombre de domaines. Le deuxième cran dans l'analyse, et dans l'émergence de cette thématique des inégalités entre les générations, c'est la question de la concentration, on va dire, des positions de pouvoir aux mains d'une seule génération. Louis Chauvel, un sociologue qui a réalisé dans les années 90 un travail qui s'appelle « Le destin des générations » et qui est très important dans la mise en évidence de ces inégalités entre les générations, va expliquer que le sort des générations de jeunes dans la France des années 90, elle est dégradée pour trois raisons. D'abord, pour le déclin économique de la jeunesse, dont je viens de vous donner quelques exemples rapides. Ensuite, parce que cette jeunesse a des perspectives de mobilité sociale plus faible que la génération du baby-boom, et enfin, parce qu'elle serait exclue politiquement et socialement. Non seulement elle serait moins payée, non seulement elle aurait des emplois moins qualifiés, etc., etc., mais en plus, on la tiendrait écartée du pouvoir, écartée des positions sociales les plus favorisées. Et donc, c'est l'idée qu'au-delà de ces inégalités dans la sphère économique, il y aurait une concentration de l'ensemble des positions socialement enviables par une seule et même génération, celle des premiers-nés du baby-boom. Deux sociologues, Christian Baudelot et Roger Establé, écrivent en 2000 un livre qui s'appelle « Avoir 30 ans en 1968 et en 1998 ». Et dans ce livre, ils vont rassembler un certain nombre de statistiques qui démontrent que, évidemment, il valait mieux être jeune en 1968 qu'en 1998 d'un point de vue économique. Mais ils vont plus loin, ils vont dire que la France de la fin des années 90, c'est une gérontoclassie. C'est une gérontoclassie parce que, disent-ils, je les cite, « Bien sûr, au cours de l'histoire, l'exercice du pouvoir et de l'autorité va toujours de pair avec l'âge. Plus on est vieux, plus on a les positions de pouvoir et les honneurs. Donc, bien sûr, ça a toujours été le cas, disent-ils, mais la pyramide des âges coïncide aujourd'hui, dans la France des années 90, plus qu'hier, avec une pyramide des statuts de points. Les âges élevés tendent à monopoliser les fonctions de pouvoir et de richesse. » Donc, il y a vraiment l'idée que, non seulement il y a des difficultés dans l'ordre économique, mais en plus, cette jeunesse-là, on la maintient dans des positions plutôt subalternes. Louis Chauvel, que je citais tout à l'heure, a par exemple fait un travail sur la forme extrême, on va dire, de position de pouvoir, enfin la forme extrême, non, faut pas exagérer, mais être député, par exemple. Voilà, donc c'est assez anecdotique statistiquement, mais c'est un indicateur. Et il a montré, par exemple, que dans l'Assemblée nationale de 1981, il y a autant de députés trentenaires que de députés sexagénaires. Et il montre que dans l'Assemblée nationale de 2007, il y a 8 fois plus de députés sexagénaires que de députés trentenaires. Avec, en plus, le fait que les députés trentenaires de 1981 sont les députés sexagénaires de 2007, et donc avec l'idée qu'une seule et même génération se serait maintenue à la députation. On pourrait citer aussi le fait, par exemple, qu'aujourd'hui, le ministre des Finances s'appelle Michel Sapin. C'était déjà le cas quand j'avais 10 ans dans les années 90. Et la ministre de l'Environnement, aujourd'hui, s'appelle Ségolène Royal. C'était déjà le cas quand j'avais 10 ans dans les années 1990. Mais on voit bien que là, on dérive. On dérive dangereusement. Et on dérive dangereusement vers un troisième cran dans l'analyse. Premier cran, il y a des inégalités économiques. Deuxième cran, on les tient, ces jeunes, à l'écart des positions de pouvoir parce qu'on les concentre, nous, plus âgés. Troisième cran dans l'analyse, qui cette fois-ci n'est pas un cran, j'allais dire, académique ou universitaire, mais qui est plutôt un cran médiatique, c'est la mise en accusation des générations. Les baby-boomers seraient responsables de tout, à peu près, c'est-à-dire du sort difficile des jeunes aujourd'hui. Ils auraient vécu au-dessus de leurs moyens, auraient creusé les dettes que nos générations de jeunes vont devoir rembourser, etc. etc. Ça, c'est surtout l'œuvre de polémistes, mais qui sont très visibles dans le débat public. Alors, il y a un certain nombre d'ouvrages qui ont été écrits sur les différents crimes des premiers-nés du baby-boom. Mais donc ça, c'est le troisième cran dans le débat public, la mise en accusation des générations plus âgées qui seraient responsables des différents malheurs de la génération des plus jeunes aujourd'hui. Il y aurait donc une génération de victimes, les jeunes, unanimement pauvres et déclassés, et les baby-boomers, unanimement riches et ayant vécu au-dessus de leurs moyens. Ces analyses, elles ont, selon moi, un certain nombre de limites. Première limite, presque tautologique, pardonnez-moi, mais ces jeunes des années 90 sont nés dans les années 60, ils sont donc aujourd'hui quinquagénaires. Donc il y a, à minima, un souci d'actualisation des données, un souci de données un petit peu plus récentes. Deuxième limite, mais qui est assez liée à cette première, c'est que la référence à laquelle on compare les générations successives de jeunes demeure assez souvent la génération justement des premiers-nés du baby-boom. Ce qui a un effet direct, c'est que cette génération des premiers-nés du baby-boom, effectivement, elle a connu un destin exceptionnel. Mais c'est un point statistique, ce qu'on appelle presque un point aberrant statistique, c'est-à-dire que c'est une génération qui, de fait, a connu une première explosion scolaire, a connu une insertion sur le marché du travail dans un contexte de plein emploi, n'a pas connu de soubresauts politiques majeurs, géopolitiques majeurs, etc., etc. Donc, une manière de caricaturer les choses, c'est de dire que cette génération est exceptionnelle. Mais si on compare le sort de toutes les générations de jeunes successives à cette génération-là, on va raisonner en termes de déclassement, en termes de difficultés croissantes. Mais le problème, c'est que cette génération-là est une génération qui commence déjà à être âgée et le point que je voudrais développer, c'est qu'en focalisant la comparaison sur cette génération-là, on a un prisme un petit peu déformant de la réalité de la succession des générations. Et c'est la deuxième limite, c'est-à-dire que le déclassement existe, bien sûr, les difficultés croissantes existent, bien sûr, mais le point que je voudrais développer, c'est le suivant, c'est que toutes les générations, en réalité, qui s'insèrent sur le marché du travail depuis le début des années 80, le font dans un état de l'économie qui est sévèrement dégradé. Et une des dynamiques qu'il ne faut pas négliger, c'est celle de la reproduction des inégalités. C'est le degré auquel le destin des jeunes de 18 ou 20 ans aujourd'hui demeure étroitement associé aux différentes ressources dont ils ont hérité à la naissance, le capital économique, le capital culturel, etc. C'est une autre façon de dire que les générations sont diverses, hétérogènes. Ça paraît absolument évident de le dire, mais c'est quelque chose qui est parfois dans le débat médiatique, dans le débat public, relativement gommé. Quand on présente les générations de jeunes comme étant victimes des générations de vieux, on nommait le fait qu'il y a des jeunes riches, il y a des jeunes pour lesquels ça va pas trop mal, qui font des grandes écoles, qui sont nés au bon endroit, qui fréquentent les beaux quartiers. Et puis, effectivement, il y a des jeunes qui sont en difficulté. De la même manière qu'il y a des baby-boomers, effectivement, qui sont les premiers salariés aisés, qui partent en retraite avec des niveaux de pension relativement élevés, ce qui fait qu'il est vrai qu'aujourd'hui, le niveau de vie des retraités n'a jamais été aussi élevé en moyenne, mais la moyenne ne doit pas faire oublier la dispersion. Et parmi les baby-boomers qui partent en retraite, j'ai regardé les chiffres hier soir, pour ne pas dire de bêtises, dans l'enquête emploi de l'INSEE, la dernière qui est disponible, sur 100 personnes qui sont parties en retraite à l'âge de 60 ans l'année dernière, il y en avait 54 qui sont parties en retraite comme ouvriers ou employés. Et donc, ils sont partis en retraite avec des niveaux de pension qui sont évidemment relativement bas. Et donc, les générations sont hétérogènes et il faut à minima tenir compte des inégalités qui passent au sein des générations. J'ai juste ici... Ah, ça y est, je ne vais pas savoir comment il faut faire. Comment il faut faire pour passer l'ordinateur au... Ça y est. Donc, j'ai juste ici représenté le taux de chômage des jeunes actifs 1 à 4 ans après la fin de leurs études. Je ne vais pas être trop long sur ce graphique, mais tout à gauche du graphique, on est en 1982, au début des années 80, et tout à droite, on est, la dernière année que j'ai reportée, c'est 2007, parce que je ne voulais pas plomber le moral de tout le monde, avec les effets de la crise de 2008. En noir, vous avez le taux de chômage des jeunes hommes, qui ont terminé leurs études depuis 1 à 4 ans, et en rouge, vous avez le taux de chômage des jeunes femmes, qui ont terminé leurs études depuis 1 à 4 ans. Aujourd'hui, le taux de chômage des jeunes actifs est de 25%. Vous voyez qu'au début des années 80, il est à peu près au même niveau. Autrement dit, le problème du chômage des jeunes, ça fait 3 décennies que ce chômage des jeunes est environ 2 à 3 fois plus élevé que celui qui prévaut pour le reste de la population. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que les jeunes qui ont 20 ans tout à droite du graphique en 2007, ça veut dire qu'ils sont nés quelque part en 1987. S'ils sont nés quelque part à la fin des années 80, ça veut dire que leurs parents sont nés quelque part au début des années 60. Vous me suivez ? Si leurs parents sont nés quelque part au début des années 60, ça veut dire qu'ils sont rentrés sur le marché du travail quelque part au début des années 80. Donc déjà, dans un marché du travail notoirement dégradé pour les jeunes. Autrement dit, on peut dire que les jeunes d'aujourd'hui, ceux qui ont 20 ans, 25 ans, 18-25 ans, ne sont pas la première génération de la crise, mais sont bien la deuxième génération de la crise à minima. Et dans ce contexte, évidemment, les ressources dont on hérite demeurent absolument essentielles. Alors, quand même, pour montrer qu'en termes de chômage, la situation est dégradée depuis longtemps, mais il y a quand même, pour ceux qui ont un travail, une précarisation croissante du contrat de travail. Là, on est pareil en 1982, tout à gauche du graphique, en 2010, tout à droite du graphique. Et si on s'intéresse à la courbe des 15-24 ans, celle qui est en noir, en gras, tout au-dessus, on s'aperçoit que pour le coup, chez les 15-24 ans, la proportion d'emplois précaires, donc CDD, intérim, contrat aidé, eh bien on s'aperçoit que cette proportion, elle a quasiment triplé presque, hein, puisqu'on passe de 12-13% à près de 35%. Aujourd'hui. Donc, si on regarde le chômage, on est bien dans la deuxième génération de la crise, hein, dans un problème structurel, mais c'est vrai que pour ceux qui sont en emploi, on a quand même une précarisation croissante du contrat de travail, de la même manière qu'on a un allongement, un retard croissant de l'accès au premier CDI, qui est aujourd'hui en moyenne à 29 ans. Donc, il faut avoir une vision nuancée. On n'a pas subitement une crise pour les jeunes qui ont 20 ans aujourd'hui, mais c'est vrai qu'on a la poursuite d'un mouvement de précarisation. Tout ça pour dire qu'il faut penser les générations comme étant hétérogènes. Il faut prendre en compte les clivages sociaux, les clivages en termes d'origine ethnique, les clivages territoriaux, les clivages de diplômes. Il est évidemment évident qu'une des césures très importantes aujourd'hui dans la société française, c'est le diplôme, et que les premières victimes des périodes de crise sont évidemment les non-diplômés. Le taux de chômage, l'écart de taux de chômage entre les non-diplômés et les diplômés de l'enseignement supérieur n'a jamais été aussi élevé que ces dernières années. Et donc, il faut faire attention avec ce concept de génération et ce concept de génération sacrifiée. C'est qu'il faut au minimum penser les différents types d'inégalités sociales qui passent au sein des générations. Alors, plus rapidement, car je ne suis pas spécialiste de ces questions, et dans la première table ronde, il y aura Tom Chevalier et Léa Lima qui sont beaucoup plus spécialistes que moi. Une deuxième manière de poser cette question de comment être jeune dans un monde de vieux, au-delà d'un certain nombre d'indicateurs économiques, c'est de poser plus largement la question de la place des jeunes dans la société française, la place des jeunes dans une société vieillissante. De fait, ce qui me semble important, c'est que les sociétés occidentales vieillissent. La société française un peu moins rapidement que certaines de ses voisines, mais les sociétés occidentales vieillissent. Et à mon sens, c'est une différence qui est rarement soulignée quand on compare la situation des jeunes aujourd'hui à celle des baby-boomers, les fameux baby-boomers dont on parlait tout à l'heure. On dit qu'ils ont eu plus de chances, moins de chômage, plus de salaires, etc. Mais on oublie souvent de dire une chose, c'est que les baby-boomers étaient jeunes dans une France qui rajeunissait, puisque de fait, par définition, ils étaient une génération nombreuse. Aujourd'hui, les jeunes sont jeunes dans une société qui vieillit. Je ne veux pas faire un cours de sociologie parce que ce n'est pas l'objet, mais dans les années 70, il y a beaucoup de sociologues de diverses obédiences qui vont décrire l'émergence de ce qu'on appelle les nouvelles classes moyennes salariées. Les nouvelles classes moyennes salariées, c'est tous les professionnels des secteurs qui se développent beaucoup à l'époque, le secteur éducatif, le secteur médico-social, le secteur culturel. C'est évidemment les instituteurs, les institutrices, c'est les éducateurs, les éducatrices, c'est tous les métiers du soin au sens large, les métiers du care, dirait-on aujourd'hui, etc., etc., etc. Et de fait, c'est des métiers dont le nombre augmente très rapidement. Et ces métiers, on va célébrer leur rôle. Il y a un sociologue qui s'appelle Henri Mindras et qui va parler des noyaux innovateurs. Il va dire que voilà, ces salariés moyens, il dit que ces salariés sont moyens en tout, moyens en salaire, moyens en diplôme, mais c'est des salariés moyens. Eh bien, c'est eux qui portent les nouvelles valeurs de la société française. C'est eux, par exemple, qui vont porter les valeurs du libéralisme culturel, les préoccupations en termes d'inégalité de sexe, les préoccupations liées à l'environnement, etc., etc. Et là où je veux en venir, c'est que ces professions, elles sont occupées par des jeunes. C'est des nouvelles professions qui se créent et qui, donc, sont occupées par des jeunes. Et donc, cette génération du baby-boom est jeune dans une société qui rajeunit et dans une société où, on va dire, le dynamisme est porté en bonne partie par des salariés qui sont relativement jeunes. Aujourd'hui, évidemment, on voit bien que la situation a changé. Et quand on regarde un élément plus concret, à savoir, par exemple, les politiques publiques qui sont mises en place en direction de la jeunesse. Vous avez peut-être vu hier, je crois que la note de France Stratégie a fait la une du Monde. Une manière très concrète de regarder la place qui est réservée à la jeunesse en France, c'est de regarder les dépenses qui sont faites en direction de la jeunesse et de les comparer à celles qui sont faites en direction des plus âgés. Et la note de France Stratégie, qui a été publiée hier, a établi, mais ce n'est pas la première fois, hein, il y a d'autres rapports qui ont été faits sur le sujet, a établi qu'entre 1979 et 2011, la part du PIB qui a été reçue, qui est reçue par les plus de 60 ans est passée de 11 à 17%, tandis que celle qui revient aux moins de 25 ans, en termes de dépenses publiques, est restée stable autour de 8%. Et donc, ce n'est pas tout à fait anormal, la société vieillit, il faut prendre en charge un certain nombre de coûts liés aux retraites, à la dépendance, etc. Mais quand on rapporte au PIB par tête, enfin, sans rentrer dans les détails, on s'aperçoit qu'il y a quand même un décrochage de la part des dépenses publiques qui s'adresse aux plus jeunes. Autre élément, au-delà des dépenses, on peut regretter le fait qu'en France, les jeunes soient assez largement exclus du régime général de la protection sociale et soit assez largement exclu de la solidarité sociale de droit commun. C'est les débats éternels sur d'abord l'extension du RMI aux moins de 25 ans, puis l'extension du RSA aux moins de 25 ans. Je donne souvent comme exemple, qui est sans doute pas très bon, mais vous savez que le RSA a d'abord été fait pour les plus de 25 ans. On n'avait pas le droit au RSA si on avait moins de 25 ans. Et puis, finalement, on a fini par étendre le RSA aux moins de 25 ans sous des conditions extrêmement drastiques. Avoir travaillé 2 ans à temps plein au cours des 3 dernières années. Et l'exemple que je donne souvent, enfin, je considère que c'est une discrimination liée à l'âge, c'est comme si on avait dit qu'on faisait le RSA pour les hommes, et devant le tollé général, on aurait dit « d'accord, on le fait pour les femmes à condition qu'elles aient travaillé 2 ans au cours des 3 dernières années ». Il y a là une discrimination qui s'exerce à l'encontre des jeunes et qui a un effet très direct, c'est l'augmentation des taux de pauvreté chez les jeunes et le renversement des taux de pauvreté qui auparavant étaient plus élevés chez les plus âgés et qui aujourd'hui sont plus élevés chez les moins de 25 ans. Je crois ne pas dire de bêtises, ne pas beaucoup exagérer. Les derniers chiffres montrent que 20% des jeunes de 18 à 24 ans vivent sous le seuil de pauvreté. Dernier élément, et je termine là pour ne pas être trop long et respecter mon temps de parole, le fait que la France a fait un choix d'accompagnement de l'accès à l'autonomie des jeunes qui repose finalement assez largement sur les épaules de la famille. Je mentionne là le travail de ma collègue Cécile Van de Velde qui fait référence puisqu'elle a comparé la manière dont était porté l'accès à l'âge adulte des jeunes dans 4 pays, le Danemark, l'Espagne, le Royaume-Uni et la France, et où elle montre que là où les pays scandinaves ont fait un choix de politique publique clair, c'est l'État qui finance et garantit l'accès à l'autonomie des jeunes. Les pays libéraux, comme le Royaume-Uni, font confiance au marché, marché du travail, marché financier. Les pays du sud de l'Europe font reposer ça sur les épaules de la famille, et ce que montre Cécile Van de Velde, c'est qu'en France, bien sûr, il y a un petit peu d'intervention de l'État, il y a des allocations pour les étudiants, allocations logement, un petit peu de bourse étudiante, bien sûr, il y a un peu de marché financier, si vous faites des études que les banques jugent rentables, elles vous prêteront un petit peu d'argent, de plus en plus de jeunes étudiants travaillent, mais il y a surtout beaucoup de familles, et beaucoup de familles, malheureusement, qui n'est pas tout à fait, enfin c'est un choix qui n'est pas tout à fait assumé au niveau de la société, c'est pour ça que Cécile Van de Velde parle de familialisation induite. Évidemment, ce choix favorise quelque part la reproduction des inégalités. On pourrait ajouter à cela la rigidité relative de notre système éducatif, qui est extrêmement élitiste, qui a du mal à enrayer les inégalités sociales, qui donne peu de deuxième chance. Nous vivons dans un pays dans lequel le verdict scolaire nous accompagne quand même une bonne partie de notre existence, hein, du fait de la faiblesse notamment des secondes chances, voire des troisièmes chances. Et donc tous ces éléments concourent à fixer relativement tôt le destin des jeunes générations et ne permet pas cette période de la jeunesse qui serait le fait de pouvoir se trouver, comme dit Cécile Van de Velde, là encore, ce qu'elle caractérise comme étant l'expérience de la jeunesse danoise, c'est de se trouver, de prendre le temps de se tromper, d'essayer une voie, de revenir, etc. Et tout cela doit être accompagné par les politiques publiques. Donc je termine tout à fait en disant que si le terme de génération sacrifiée n'a pas de sens vraiment, j'espère l'avoir montré, là où il y a un vrai problème selon moi en France, c'est la manière dont on n'a pas pensé ou dont on ne veut pas penser les politiques publiques en direction de cet âge fragile qu'est la jeunesse et la transition vers l'âge adulte. Qu'on soit de gauche ou de droite, en France aujourd'hui, il y a un relatif consensus pour considérer par exemple que la prise en charge de la dépendance et du grand âge, c'est trop compliqué, trop sérieux, trop injuste pour être laissé uniquement au marché. Il faut que l'État regarde un peu. Et moi, je pense que l'accès à l'âge adulte est aussi une période fragile, mais il n'y a pas encore cette prise de conscience, il n'y a pas encore ces politiques publiques, cette révolution des politiques publiques qui accompagnerait l'accès à l'autonomie des jeunes, mais je pense encore une fois que Léa Lima et Tom Chevalier auront beaucoup plus de choses à dire à ce sujet que moi. Donc voilà ce que je voulais dire dans cette introduction. Quelqu'un avait dit en rigolant quand j'avais partagé le lien vers le programme sur Twitter que d'habitude c'était les vieux qui faisaient les conférences d'introduction. Donc je ne sais pas si ça veut dire que je suis vieux ou si c'est une exception, mais voilà. Merci beaucoup, en tout cas, et puis bon débat.